étude de l'histoire de l'Église. Et donc, on était resté à la mission en Afrique au XXe siècle. Et on était resté particulièrement au tournant des années 60, qui était l'époque où la plupart des pays africains avaient trouvé donc leur indépendance après la colonisation européenne. Et nous avons vu que cette indépendance, qui s'était faite souvent d'une manière chaotique, parfois dans de véritables bains de sang, avait aussi évidemment eu des incidences importantes sur finalement l'évangélisation de l'Afrique. La première de ces modifications, c'est que dans certains pays, les Blancs avaient été totalement chassés et donc les missions, aussi les missionnaires, avaient été chassés. C'est le cas, par exemple, de tous les pays qui avaient adopté le marxisme, tels la Guinée ou le Ghana. Dans la plupart des autres pays, les choses avaient été différentes, dans ce sens que le mouvement d'indépendance politique s'était traduit aussi par un mouvement d'indépendance spirituelle, dans ce sens que les églises africaines avaient réclamé aussi leur autonomie et leur émancipation de la tutelle des Blancs. Bien souvent, les missions européennes ou occidentales, disons, n'étaient pas du tout prêtes à envisager ce pas. Et de la même manière que la décolonisation politique s'est faite un peu à la va-vite, avec souvent des conséquences négatives, la décolonisation spirituelle, si j'ose dire, elle aussi s'est souvent faite à la va-vite, et parfois d'une manière aussi qui a été chaotique. Finalement, les Blancs ont dû se résoudre à accorder cette indépendance et cette autonomie à la plupart des églises africaines. Et les églises africaines aussi ont été assez sages, assez vite, pour comprendre qu'elles n'étaient pas mûres pour se passer non plus totalement des Blancs. Donc, avec le temps, un modus vivendi s'est établi qui fait que les Blancs sont là comme des auxiliaires, en quelque sorte, de l'Église indigène, de l'Église africaine. Et souvent, justement, accomplissent des tâches que l'Église africaine elle-même ne peut pas faire, notamment s'occupent des infrastructures, par exemple, pour tout ce qui est l'auxiliariat missionnaire, c'est-à-dire, par exemple, ce qui sont les dispensaires, l'enseignement ou des choses comme ça. On fait appel aux Blancs non seulement sur le terrain, par exemple les traductions de la Bible ou des choses comme ça, mais également aussi au point de vue des fonds. L'Église africaine, l'Église indigène est souvent dépourvue de moyens financiers. Et pour tout ce qui est justement aussi construction ou bien choses qui dépassent le cadre d'une église locale, on est souvent obligé de faire appel aux Blancs, donc également aussi aux capitaux des Blancs. Et cette situation varie aussi d'un pays à l'autre, bien sûr. Dans certains pays qui étaient très marxisés, à la suite d'effondrement, par exemple, du mur de Berlin, les Blancs ont pu revenir. C'est le cas, par exemple, en Guinée, au Ghana. Maintenant, un autre phénomène s'est produit dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est l'islamisation de l'Afrique. Et cette islamisation s'est souvent accompagnée d'une véritable hostilité au christianisme en général et aux Blancs en particulier. Les musulmans ont réussi à pénétrer en Afrique, notamment après l'effondrement du communisme. Pendant toutes les années 60 à 80, fin des années 80, disons, le marxisme était un peu l'aile marchande en Afrique. Et beaucoup de jeunes pays africains pensaient qu'il était de bon ton d'adopter le mode socialiste de développement, dans la mesure où justement les pays marxistes, c'est-à-dire l'URSS et ensuite la Chine communiste, se présentaient comme des pays qui n'avaient pas derrière eux de passé colonial, ce qui pour l'URSS était d'ailleurs assez risible quand on sait le nombre de, de, de peuples du sud de l'URSS qui avaient été colonisés en quelque sorte, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, etc., etc., la Sibérie, tout ça, c'était de véritables colonies communistes qui ne disaient pas leur nom. Bon. Mais enfin, la façade était celle-là, n'est-ce pas ? Et l'URSS se présentait comme, justement, au contraire, une puissance anticolonialiste qui avançait masquée de cette manière-là. La décolonisation de l'Afrique, disons, du Nord, c'est-à-dire l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, s'est faite relativement sans trop de heurts, hein. Et la plupart de ces pays sont restés en général liés à la mère patrie sur le plan économique, sur le plan politique également. Bon, nous avons vu qu'en 1960, De Gaulle avait créé ce qu'on appelait la communauté française, laquelle communauté française s'est finalement dissoute par la force des choses, notamment après le départ de De Gaulle. Et les pays qui faisaient partie de la dite communauté sont devenus des pays totalement indépendants, mais qui ont gardé, ne serait-ce que pour des raisons de survie, des liens avec la mère patrie, parce que bien souvent, comme pour les missions, ils avaient besoin des capitaux de l'étranger pour pouvoir subsister et survivre. Par contre, l'Afrique australe, ça a été beaucoup plus chaotique. D'abord, nous avons parlé des événements du Congo ex-belge, Congo d'abord qui s'est appelé Léopoldville, puis ensuite le Zaïre, et qui a été déchiré par des guerres tribales à partir des années 60 jusqu'à la fin de la décennie, pratiquement d'une manière absolument abominable. Ça a été de véritables tueries dans lesquelles les blancs, les missionnaires blancs aussi ont payé un lourd tribut. Finalement, il y a eu des hauts débats et il continue à y avoir des hauts débats jusque maintenant. Et la présence des missionnaires aussi est possible ou moins possible selon l'évolution de la situation politique qui reste extrêmement précaire de toute manière. Bon, l'Afrique australe, c'était aussi les anciennes colonies portugaises. Le Portugal, qui était un pays qui avait un régime autoritaire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, présidé par le docteur Salazar et puis ensuite par ses successeurs à sa mort, était un pays qui était absolument réfractaire à toute idée de décolonisation. Le Portugal possédait un certain nombre de grands pays africains en Afrique australe, notamment l'Angola et le Mozambique, qui étaient ses deux principales colonies, plus des pays plus petits qui étaient également sous sa coupe. Et le Portugal avait pensé élaborer un mode tout à fait particulier de relation avec ses colonies, c'était toujours des colonies, c'est-à-dire donner l'égalité des droits à tous les membres de ces ex-colonies. Finalement, c'était une forme de décolonisation qui n'en était pas une, dans ce sens que, en reprenant un petit peu l'idée de De Gaulle d'une communauté, finalement, c'était un seul pays. Le Portugal s'étendait depuis le Portugal proprement dit jusqu'au Mozambique et jusqu'en Angola, n'est-ce pas ? C'était un seul et même pays. Bon, il est évident que les Africains ne l'entendaient pas tout à fait de cette oreille-là. Et ils ont fait appel justement au pays du bloc de l'Est, du bloc communiste. À partir de la fin des années 60, notamment de 1968 et la fameuse révolution culturelle chinoise, la Chine s'est posée en rivale de l'URSS. Et les deux pays socialistes, entre guillemets, se sont disputés justement les faveurs des États africains. Alors, pour ce faire, on appuyait les factions rivales selon les intérêts du moment, ce qui, bien loin justement d'apaiser la situation déjà tendue, ne faisait que exacerber les rivalités et les guerres tribales qui balayaient ces pays. Et alors donc, le Portugal a mené un combat d'arrière-garde absolument d'une autre époque, jusqu'à il y a peu, finalement, jusqu'à la fameuse révolution, jusqu'à 73, jusqu'à la révolution des œillets, hein, à partir du moment où le pouvoir autoritaire à Lisbonne a été renversé par une coalition des gauches, comprenant le parti socialiste, le parti communiste et les radicaux, ça. Et alors, au moment de cette fameuse révolution des œillets, qui, comme son nom l'indique, a été pacifique et qui a vu l'arrivée au pouvoir du parti majoritaire, qui était le Parti socialiste, conduit par Mario Suarez, la première mesure qu'a pris le nouveau gouvernement de Lisbonne, ça a été justement d'accorder l'indépendance totale aux ex-coloniques portugaises. Mais cette mesure n'a pas apaisé la situation dans ces pays, loin de là, dans la mesure où justement la rivalité entre l'URSS et la Chine a continué à s'exercer. Par conséquent, la guerre civile pour le pouvoir dans ces pays officiellement décolonisés a fait rage. Pour compliquer encore un peu les choses, bien entendu, les Américains aussi essayaient de contrer la pénétration du communisme en Afrique. Et c'est l'époque aussi où Moscou a fait donner comme supplétif les Cubains de Castro. Les Cubains qui étaient aussi, pour beaucoup d'entre eux, originaires de d'Afrique. Il y avait des Noirs et on pensait qu'ils seraient proches donc des Africains. Et par conséquent, des mercenaires cubains ont intervenu notamment en Angola et à un degré moindre au Mozambique, si bien que ces pays ont été plongés pendant presque toute la fin du siècle dans un chaos et une guerre civile épouvantable qui n'est pas d'ailleurs, à l'heure qu'il est, entièrement résorbée. Bon, autre point chaud aussi de l'Afrique australe, c'était bien entendu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui vivait sous un régime aussi tout à fait particulier et tout à fait condamnable, qui était le régime de l'apartheid. Les Blancs étaient les véritables maîtres du pays. Non pas qu'ils aient colonisé ce pays, contrairement à aussi, là, il y a eu toutes sortes de... les progressistes ont fait courir toutes sortes de on réécrit l'histoire. L'Afrique australe, quand les Blancs sont arrivés après la réforme, était un pays qui était pratiquement vide d'habitants. Si bien que les exilés, qui étaient souvent des exilés de France notamment, enfin d'Europe persécutés, c'était des protestants persécutés pour leur foi, ont trouvé donc en Afrique du Sud un refuge. Jusqu'à aujourd'hui, on parle en Afrique du Sud un dialecte qui est proche du hollandais, hein, du flamand, et qui donc s'est créé de cette manière-là dans un pays qui était pratiquement vide d'habitants. Les Noirs étaient beaucoup plus au nord. Et à partir du 17e, 18e, les Blancs qui arrivaient toujours plus nombreux et qui étaient devenus colonies britanniques sont remontés vers le nord, au moment où les Noirs, à leur tour, descendaient vers le sud. Si bien que, justement, les deux populations se sont rencontrées. Finalement, bien entendu, au moment du 18e et surtout du 19e siècle, l'époque de la colonisation, les Blancs sont remontés très au nord et ont colonisé les Noirs, les Bantous, les Zoulous, etc., toutes ces peuplades. Et par la suite, au moment du découpage du 19e siècle, l'Afrique du Sud, qui a ensuite pris le nom d'Union sud-africaine au moment de la décolonisation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où elle est devenue donc indépendante, après avoir mené contre l'Angleterre la fameuse guerre des Boers, entre les deux guerres. Et l'Union sud-africaine est devenue aussi puissance mandataire, comme c'était le cas après la Première Guerre mondiale, d'un territoire qu'on appelait l'Ouest sud-africain, qui est devenu à notre époque la Namibie, après avoir été décolonisé aussi après des combats contre les forces sud-africaines, n'est-ce pas, qui ne voulaient pas non plus donner l'indépendance à ce pays-là. Finalement, les Sud-Africains ont fini par lâcher parce que justement ils étaient lassés d'une guerre de guérilla qui empoisonnait le pays pendant de très très nombreuses années. Bon, c'était aussi l'époque où un peu plus au nord il y avait des pays qui étaient aussi dans la mouvance de l'Afrique du Sud, qu'on appelait les Rhodésies. Il y avait deux Rhodésies du nom de celui qui avait découvert ces pays, n'est-ce pas ? Rhodes, n'est-ce pas, qui avait donné son nom à ces deux petits territoires, finalement, qui étaient peuplés aussi par des Blancs qui avaient introduit, sur le modèle de l'Afrique du Sud, les régimes de l'apartheid. Ils avaient créé un État indépendant qui était basé justement sur la prédominance des Blancs sur les Noirs. Les Rhodésies se sont assez vite effondrées dans une guerre civile qui a vu le massacre des Blancs sur une assez grande échelle. Et les Blancs, qui étaient nettement plus majoritaires dans ces pays qu'en Afrique du Sud, ont à peu près tous fui en Afrique du Sud. Et ces pays sont devenus des pays indépendants, sous un régime évidemment africain, sous le nom de, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Non, c'est pas les. Non, comment je le nom, ça m'échappe pour le moment, peu importe. L'Afrique du Sud est restée donc le dernier bastion, je ne sais pas si on peut dire colonisé ou non colonisé, enfin c'était une autre forme. Finalement, les Blancs étaient chez eux aussi, ils n'avaient pas d'autres pays, il n'était pas question pour eux d'aller ailleurs. Donc il fallait trouver d'une manière ou d'une autre un modus vivendi et une coexistence entre les Blancs. Bon, le fait est que les Blancs étaient les seuls qui avaient le droit de vote, donc ils avaient tous les pouvoirs, et les Noirs, civilement, n'existaient pas pratiquement. Bon, alors il y a eu une évolution qui a fait qu'on a reconnu des espèces de ce qu'on appelait des Bantoustans, des États noirs, au sein de l'Union sud-africaine, mais la Constitution faisait que finalement, la minorité blanche n'était pas tenue par les décisions prises par la majorité noire, quoi. C'était le problème. Finalement, sous la pression internationale, le dernier président du Conseil blanc, de Clare, a donc accepté de donner l'égalité des droits aux Noirs, ce qui a entraîné évidemment immédiatement une chute de son gouvernement par le jeu du suffrage universel, c'est pas, et a mené donc le principal opposant, Nelson Mandela, à la présidence de la République d'Afrique du Sud. Bon, donc c'était en principe la solution du problème, mais si vous voulez, la loi est une chose, la réalité de ce que la loi propose est une autre. Et actuellement, l'Afrique du Sud est un pays qui connaît un chaos très important, ça, et qui dont l'avenir est plus qu'incertain, du moins en ce qui concerne, le pays tout entier finalement, car finalement les Africains, les Noirs ont besoin des Blancs pour faire fonctionner le pays. Les Blancs négocient au prix fort leur collaboration. Enfin bon, et les grandes villes sont de véritables champs de bataille. Il paraît que on sortir dans les rues comme ça, c'est pas, il y a des morts constamment. C'est une situation particulièrement épouvantable. C'est dans ces pays que ont eu lieu donc aussi, pendant le XXe siècle, un certain nombre de réveils parmi les plus importants. Dans ces années terribles de ces conflits entre noirs et blancs, qui étaient marqués par des actes de terrorisme particulièrement atroces, on note le fameux réveil des Zoulous, dont le pasteur Erlo Stingen fut l'instrument principal. C'est dans les années 66-67 que ce réveil a éclaté. Après 12 ans de travail du pasteur Erlo Stingen parmi les Zoulous. Le pasteur Erlo Stingen était un descendant d'une famille luthérienne hollandaise qui s'était installée donc en son temps dans le pays comme beaucoup d'autres, et qui s'était très jeune révolté contre la foi de ses parents. Son seul but était de faire fortune, et il s'était lancé dans les affaires, exploitant les Noirs, etc. Puis, il avait rencontré le Seigneur et s'était véritablement converti à Jésus-Christ. Bien entendu, sa vie avait complètement changé, était complètement bouleversée, et il avait décidé, abandonnant les affaires, de se consacrer au service de Dieu. Le Seigneur avait eu beaucoup de mal avec lui parce qu'il avait résisté à cet appel pendant longtemps. Et donc, il avait entrepris des études de théologie pour évangéliser essentiellement les Noirs. Mais comme beaucoup de Sud-Africains de cette période-là, Erlo Stingen était raciste. Il avait considéré en quelque sorte les Zoulous comme des sous-hommes, etc. Il n'aurait jamais rendu, même en tant que chrétien, c'est très intéressant, n'est-ce pas ? Même en tant que chrétien, il n'aurait jamais rendu service à un Africain. Ça aurait été se dévaluer, ça aurait été déchoir. Et, bon, il pensait, il ne s'en est même pas compte de ce racisme qui était dans l'air du temps, si j'ose dire, et qui lui collait à la peau sans même qu'il le réalise, quoi. Inutile de dire qu'avec un pareil état d'esprit, les efforts d'évangélisation qu'il a fait pendant 12 ans parmi les Zoulous ont été assez vains et assez peu couronnés de succès. C'était aussi une époque où, au début du siècle, le mouvement de Pentecôte a eu un gros impact en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, y compris d'ailleurs chez les Noirs. Et là, justement, c'était simplement le réveil de Pentecôte qui avait abattu les cloisons entre Noirs et Blancs. Là, il y avait une véritable symbiose. En tout cas, pendant le temps du véritable réveil, si vous vous souvenez, c'était dans ces années-là, tout à fait dans les années début du siècle, 1905-1910, que David Duplessis s'était converti. Et donc avait eu ce ministère extrêmement important qu'il avait ensuite mené à cette rencontre décisive avec Smith Wigglesworth, là, alors qu'il était pasteur en Afrique du Sud. À l'époque ici qui nous intéresse, c'est-à-dire la deuxième partie du siècle, à la fin des années 60, disons, le réveil de Pentecôte en Afrique du Sud, comme dans bien d'autres lieux dans le monde, s'était passablement estompé, n'est-ce pas ? Et il était évident qu'il y avait un nouveau souffle de l'esprit, qu'on avait besoin d'un nouveau souffle de l'esprit. Le pasteur Singer ne connaissait pas directement le réveil de Pentecôte, dans la mesure où il était d'origine luthérienne, bien que l'église luthérienne était loin d'être majoritaire en Afrique du Sud, puisque les Sud-Africains étant en général descendants des Hollandais et des Français, Duplessis était un nom français, c'était essentiellement l'église réformée qui était majoritaire. Mais bon, l'église luthérienne en était proche, bien évidemment. Et donc, après des années de travail, Erlo Stingen était découragé. Et il était prêt à retourner dans ses affaires, abandonner le service de Dieu. Il était lui-même gagné par des doutes, par la pensée rationaliste qui était celle des églises officielles luthériennes et réformées. Et donc, il était sur le point de tout abandonner. Et il a une dernière fois cherché la face de Dieu avant de prendre la décision. Et là, ouvrant sa Bible, il est tombé sur un texte qui disait ceci: « Si vous ne devenez comme de petits enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. » Et ce texte lui a parlé. Et alors là, il s'est dit, le Seigneur lui a dit finalement, que s'il en était où il en était, c'est justement parce qu'il n'avait pas cet état d'esprit d'un petit enfant par rapport à la Bible. Et notamment aussi par rapport aux Africains, il croyait qu'il était un homme sage, intelligent, évolué, etc. Et que c'était l'obstacle à la bénédiction de Dieu. Alors Erlo Stingen s'est repenti devant Dieu pour son incrédulité, son orgueil, etc. Et alors, dans l'église, la petite église qu'il avait là au milieu du peuple Zoulou, il a proposé une chose. Il a dit, voilà, nous allons pendant tout un temps, nous aurons une réunion spéciale chaque soir après le travail, pour ceux qui le veulent. Et la réunion se passera de manière très simple. Nous lirons à haute voix la parole de Dieu sans la commenter. Simplement, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est. La recevoir comme des petits-enfants. Il a insisté beaucoup sur ce texte qu'il avait reçu, donc, de devenir comme des petits-enfants. Et donc, ainsi en a-t-il été pendant plusieurs semaines. Un petit auditoire s'est rassemblé chaque soir pour trois quarts d'heure. On lisait tout simplement la parole de Dieu. Et petit à petit, la parole de Dieu faisait son chemin dans les cœurs. Et d'abord, les auditoires ont commencé à grandir. Puis soudain, des choses ont commencé à se passer. Soudain, c'était deux fois, matin et soir, donc ils lisaient la parole de Dieu, donc à 5 heures le soir. Soudain, eh bien, ces Zoulous, qui, pour beaucoup d'entre eux, menaient des vies particulièrement dissolues, se sont sentis convaincus de péché. Et certains ont commencé à mettre leur vie en règle avec Dieu, à restituer des choses qu'ils avaient volées, à se demander pardon les uns les autres, à confesser parfois même des crimes que certains d'entre eux avaient commis, et des choses comme ça. Et c'est ainsi que, soudain, le réveil a éclaté. Le réveil a éclaté avec donc un réveil de sanctification. C'était essentiellement ça au départ. Et sans que Erl Oettingen n'ait eu de contact avec des milieux pentecôtistes ou charismatiques, les charismes ont aussi commencé à se manifester. C'était aussi l'époque, évidemment, du réveil charismatique, mais ça, il ne le savait pas. Il était en brousse. Et là, un des premiers résultats du réveil sur la personne d'Erl Oettingen lui-même a été justement de réaliser combien il était raciste, combien même sans s'en rendre compte, il était raciste. Et il a demandé pardon publiquement à ses frères africains. Et puis là, il s'est mis au contraire vraiment à leur service, même jusqu'à faire ce qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il dit « j'aurais jamais porté la valise d'un noir ». Ça, ça aurait été déchoir. Et là, il s'est mis à faire des choses comme ça, à la grande stupéfaction des indigènes, pour lesquels aussi c'était une chose tout normale qu'un blanc ne s'apaise jamais devant un noir. C'était dans le temps. Dans la culture de ces populations-là, quoi. Et alors, donc, c'était une époque où la situation se dégradait aussi sur le plan politique, enfin, sur le plan de cette situation dont nous avons parlé en Afrique du Sud. Et Erl Oettingen, donc, a été contraint aussi de prendre un certain nombre de mesures de protection et d'entourer, donc, la station missionnaire qu'il avait construite de murailles, de palissades pour empêcher justement que des gens ne viennent attenter aux biens et également aux personnes. C'était quand même une situation. Erl Oettingen n'était pas un utopiste et tout en comptant sur la grâce de Dieu, il savait qu'il y avait des choses à prendre. Mais ce qui est certain, c'est que ce réveil qui a duré pendant des dizaines d'années, qui je pense dur encore, que notre frère Falk avait eu l'occasion de voir quelque temps avant sa mort et qu'il avait absolument bouleversé parce que, comme il l'avait dit, il se sentait ramené au début du réveil qu'il avait connu dans son jeune âge quand il était au Danemark, quoi, puis ensuite quand il était à Paris. Et donc là, ce qui était remarquable, ce qui, laissons doute encore, on n'a plus de nouvelles tellement de cette mission là-bas, mais c'était justement cet accent mis sur la sanctification, sur la consécration, sur le renoncement total, enfin sur ce qui était véritablement l'essence même de l'Évangile. Alors maintenant, évidemment, la situation est nouvelle depuis les bouleversements politiques qui ont marqué l'Afrique du Sud. Qu'est-il arrivé à nos frères? Qu'en est-il justement de l'expansion du réveil? Dans le chaos qui marque ce pays, bon, nous ne savons pas exactement où ça en est. Donc, il y a eu aussi des pays où l'Évangile a été accepté alors à bras ouverts. Beaucoup de ceux qui devaient prendre les rênes des nouveaux pays indépendants avaient été formés dans des missions chrétiennes et étaient des chrétiens. Ce fut le cas, par exemple, dans un certain nombre d'anciens pays, d'anciennes colonies françaises, par exemple au Gabon, où le premier président de la République était un chrétien évangélique, le président Mba. C'était le cas au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire ex-Congo français, où c'était cette fois-ci un catholique, un abbé, l'abbé Fulbert Youlou, qui a pris le pouvoir. C'était le cas au Tchad, en Centrafrique et dans d'autres pays de l'ancienne Union française où les missions protestantes avaient eu un gros impact. C'était le cas aussi dans ce qu'on appelait encore la Haute-Volta avant qu'elle ne devienne le Burkina Faso. Et là, il y a eu donc des dirigeants qui étaient évangéliques, qui étaient protestants ou catholiques, qui étaient chrétiens, disons. Alors là, au contraire, de ce qui s'est passé, par exemple, en Guinée ou bien au Ghana, les missionnaires ou les chrétiens donc avaient pignon sur rue. Au contraire, on invitait les missionnaires à venir prêcher l'évangile, à venir établir. Ils avaient toute l'attitude, quoi. Les ministres, les présidents de la République, enfin les officiels, assistaient régulièrement au culte, etc. Donc là, il y a eu un moment tout à fait favorable dans un certain nombre de pays qui avaient été marqués justement par l'évangélisation. Souvent, il y a eu deux autres évolutions qui ont alors un petit peu revenu sur cet acquis-là. La première, ça a été justement l'islamisation d'un certain nombre de ces pays. Par exemple, les pays qui étaient en bordure, les pays du Sahel, si vous voulez, c'est-à-dire le Tchad, le Centrafrique, tous ces pays-là, ont été islamisés à partir de la Libye qui, en 1969, a connu un coup d'État qui a vu l'arrivée au pouvoir du colonel Kadhafi, lequel était un islamiste convaincu, missionnaire, et qui pensait que Allah l'avait mis à la tête de la Libye et du pétrole de la Libye pour justement qu'il islamise l'Afrique non seulement par des missionnaires, mais également par le glaive, comme le dit le Coran, n'est-ce pas ? Et par exemple, le Tchad a souvent été attaqué par son voisin libyen, et il est encore à l'heure où nous parlons, tant et si bien que la France a dû à plusieurs reprises intervenir militairement pour mettre fin au rêve de conquête du colonel Kadhafi. Mais il y a eu dans tous ces pays une islamisation importante. Et cette islamisation a fait qu'il y a eu des dirigeants qui n'étaient plus favorables à l'Évangile, qui sont arrivés à la tête de ces pays, même si ils ne sont pas toujours tombés directement dans l'orbite de l'islam. Ces pays donc sont devenus un peu plus difficiles. Il y a eu parfois certains pays qui sont même revenus, certains qui ont apostasié, et notamment c'était le cas en Centrafrique, où le président qui était un chrétien a apostasié et est revenu au fétichisme pré-chrétien, et notamment s'est mis à persécuter les chrétiens. Il y a eu des mises à mort de chrétiens dans les années 70, 80, de gens qui refusaient de revenir au culte des ancêtres traditionnels, etc., notamment avec une cérémonie d'initiation secrète auquel tous les jeunes gens d'un certain âge devaient obligatoirement se livrer. Et les jeunes chrétiens qui ont refusé de se soumettre à cette cérémonie d'initiation ont été tout simplement massacrés jusqu'à ce que ce président qui s'appelait Tombal Bay soit finalement renversé. Un autre pays qui a connu aussi alors des vicissitudes très importantes, c'est le Nigeria. Le Nigeria, à la fin des années 60, était divisé entre deux parties. La partie la plus désertique, qui était à majorité musulmane, et la partie ouest, qui était la plus riche, qui était à majorité chrétienne. L'intolérance des islamistes qui étaient les plus nombreux et qui avaient donc pris le pouvoir au Nigeria, a produit en 1967 une sécession. La partie chrétienne s'est proclamée indépendante sous le nom du Biafra. Et la majorité nigériane, évidemment, a refusé cette sécession. Et l'ONU aussi, n'est-ce pas, a refusé la sécession, car il y a une loi non écrite qui concerne l'Afrique, et qui est un petit peu discutable au demeurant, n'est-ce pas, c'est que les frontières issues de la colonisation sont devenues des frontières quasiment sacrées, qui ne peuvent en aucun cas être remises en cause. Car on considère à l'ONU que si l'on remettait en cause les frontières issues de la colonisation, eh bien, toutes sortes de tribus feraient sécession et l'Afrique tomberait dans le chaos. Par conséquent, nous avons parfois des pays qui sont formés d'une mosaïque d'ethnies diverses, souvent rassemblées dans une entité absolument artificielle qui n'est que le résultat justement du découpage des colonisateurs, c'est pas ? Qui sont animés d'antagonismes extrêmement vifs les uns vis-à-vis des autres, n'est-ce pas, et qui sont obligés de coexister de force dans les frontières d'un même État. C'est par exemple ce qui s'est produit il y a peu, comment ça s'appelle, là-bas à côté du... Comment non pas Côte d'Ivoire, oui, Côte d'Ivoire aussi, mais voyons, à côté du Zaïre, là, où était le gars qui a été tué, oui, Burundi. Burundi, où tout et tout si, étaient deux ethnies qui ne pouvaient absolument pas s'entendre, et qui se sont entretués dans de véritables génocides, avec la complicité, finalement, des ex-colonisateurs qui n'acceptaient pas de remise en question à ce niveau-là. Et ça a été le drame du Biafra dans les années 60, également, à la fin des années 60, c'est que le Biafra a été lâché par toutes les grandes puissances, pratiquement. Et alors, lorsque bon, c'était des gens beaucoup plus intelligents, c'était l'élite du pays. Donc, ils ont réussi à tenir face à la majorité musulmane pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même, n'est-ce pas ? Avec l'appui d'ailleurs de mercenaires blancs qu'ils payaient à grands frais. Ces gens-là étaient absolument diabolisés, c'était des abominables fascistes, etc. Et puis finalement, quand le Biafra s'est écroulé, eh bien, ça a été le bain de sang. La majorité musulmane, évidemment, s'est vengée en un véritable bain de sang. Et actuellement, le Nigeria est un pays aussi extrêmement difficile pour les chrétiens, chrétiens qui constituent une minorité très importante. Et la presse, de temps en temps, fait écho de massacres de systématiques de villages entiers, de chrétiens qui sont rasés ou convertis de force, bon, un petit peu comme ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, évidemment, vous savez aussi ce qui se passe. Le Nord, qui est essentiellement musulman, est l'endroit où se concentre le pouvoir grâce à l'appui des pétrodollars. C'est un des grands centres du terrorisme mondial. Peut-être qu'on peut penser que, là aussi, après avoir réglé le compte de l'Irak, les États-Unis s'en occuperont. En tout cas, il est sur leur liste noire des États voyous, et c'est le moins qu'on puisse dire. La majorité du Nord musulmane avait, avec les États du Golfe, depuis des siècles, n'est-ce pas, un fructueux commerce d'esclaves. Vous savez que dans le Coran, l'esclavage est autorisé, notamment pour ceux qui refusent de se laisser islamiser. Et donc, il y avait constamment, dans le Sud, des razzias d'animistes, avant l'arrivée donc du christianisme, qui étaient vendus notamment en Arabie Saoudite et dans le Yémen, dans tous ces pays de la péninsule arabique. Bon, il serait absolument erroné de croire que ce commerce a cessé. Il est plus florissant que jamais. Et beaucoup de ceux qu'on appelle des travailleurs étrangers en Arabie Saoudite ne sont d'autres que des Africains, des Soudanais qui ont été déportés là-bas et qui ont, en fin de compte, le statut d'esclave sans en avoir le nom. Vous savez, hélas, l'horrible massacre, l'horrible persécution dont nos frères sont victimes donc, dans le sud du Soudan, dont, évidemment, les Blancs et toutes les missions, notamment la fameuse CIM, ont été chassés au moment où le Soudan a accédé à l'indépendance. Donc après avoir été une colonie anglo-égyptienne, finalement. Des pays alors absolument islamisés sont en principe fermés à l'évangile, totalement, tels par exemple le Niger ou des pays sahéliques, bien entendu les pays d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc et Tunisie, Libye, et Égypte sont aussi interdits aux Blancs, interdits à la mission, n'est-ce pas ? On tolère que des gens qui sont chrétiens de souche puissent éventuellement vivre leur foi, par exemple au Maroc ou en Égypte, mais la minorité chrétienne copte est persécutée horriblement, notamment depuis quelques années, au moment de la résurgence des frères musulmans et du retour, n'est-ce pas, quand le socialisme aussi a reflué après la chute du mur de Berlin, c'est l'islam qui s'est présenté en Afrique comme le mouvement d'émancipation des Noirs, comme le mouvement de décolonisation. Les Arabes qui ont été parmi les premiers colonisateurs de l'Afrique bien avant les Blancs, ça il faut quand même pas l'oublier, n'est-ce pas ? ont réussi à se présenter comme des peuples eux-mêmes qui ont été colonisés par les Blancs, et par conséquent, comme des gens qui venaient au secours des Noirs. Hein. Et en fait, bien souvent, les Africains se sont laissés pénétrer par l'idéologie islamiste se rendent compte que, bien ma foi, leur sort est infiniment pire qu'il ne l'était auparavant, que c'est un marché de dupes. Et nous assistons actuellement en Afrique, vous le savez, à une véritable course de vitesse pour la conquête, en quelque sorte, spirituelle du continent. Bon. Lequel continent est-ce à cause de toutes ces vicissitudes? Est-ce à cause aussi, peut-être on peut dire spirituellement, d'une emprise très forte des puissances des ténèbres à cause justement de l'animisme et du fétichisme? Est un pays qui non seulement est déchiré par des guerres tribales, comme on le sait, mais également ravagé par le sida. Il y a en Afrique des régions entières qui sont totalement dépeuplées. On peut faire des centaines de kilomètres sans trouver âme qui vive, des villages qui sont totalement déserts parce que tous sont morts. Le manque d'hygiène continue à faire en sorte que ce type de fléau se propage. Et alors, ce qui fait que, alors que tous les pays du monde décollent économiquement, même les pays qui sont les plus arriérés, si on prend par exemple, on compare des pays d'Asie, mettons, je ne sais pas moi, même un pays comme le Cambodge qui a connu quand même un grand bond en arrière au moment du fameux génocide des gardes rouges, est un pays qui progresse sur le plan économique. Des pays comme justement l'Asie du Sud-Est, l'insule Inde ou l'Indonésie ou des pays comme ça, ce sont des pays qui progressent, même s'ils progressent moins que d'autres, mais ils progressent. La plupart des pays africains, mis à part l'Afrique du Sud et certains pays justement d'Afrique du Nord, à cause du pétrole, sont tous des pays qui reculent sur le plan économique. Là, c'est une véritable catastrophe et l'avenir de l'Afrique sur un plan strictement humain est un des plus préoccupants qui soit. Nos frères africains sont aussi dans des situations extrêmement difficiles sur le plan économique, sur le plan des famines, sur le plan des épidémies, on l'a vu, sur le plan de toutes ces choses. Enfin, c'est une véritable catastrophe qui a atteint l'Afrique à la fin de ce siècle, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Sur le plan spirituel, il y a à la fin du siècle 15 millions de protestants en Afrique, 22 millions de catholiques, à peu près autant, c'est-à-dire, si vous voulez, si on ajoute catholiques et protestants, il y a à peu près autant de musulmans. Ça s'équilibre à peu près, si vous voulez, même si finalement les musulmans aussi n'arrêtent pas de progresser. Mais il ne faut quand même pas oublier que la majorité des Africains, à l'heure qu'il est encore, sont essentiellement animistes, 200 millions d'animistes. Ce qui explique peut-être aussi d'ailleurs l'état dans lequel se trouve l'Afrique. Avec les anciennes superstitions, le fétichisme, la sorcellerie et toutes ces choses-là, qui maintiennent dans un état lamentable la majorité de ces gens-là. Ce qui est encourageant, c'est qu'en Afrique, la progression de l'Évangile ne se ralentit pas, malgré justement aussi l'influence de l'islam, qui dans certains pays, il faut bien le reconnaître, progresse quand même plus vite que le christianisme. Et alors justement, cette influence de l'islam est un véritable défi aux églises d'Afrique. Maintenant, l'Afrique n'est pas seulement travaillée par l'islam, mais un certain nombre, entre guillemets, d'élites est travaillée maintenant par le matérialisme, la vie facile, le mode de vie occidental, l'American way of life, n'est-ce pas ? C'est l'idéal de beaucoup de ces élites-là. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est préoccupant. Maintenant, quand nous parlons aussi des chrétiens d'Afrique, il ne faut pas oublier que parfois, et dans certains lieux, et dans des cas, la christianisation est quand même très superficielle. Et qu'elle cache mal la pratique plus ou moins ouverte d'anciennes coutumes animistes africaines, du polythéisme. La polygamie aussi est un fléau que les missionnaires et les églises locales maintenant n'ont pas véritablement réussi à éradiquer. Ça fait partie des coutumes ancestrales en quelque sorte. De telle sorte que il y a maintenant aussi de gros problèmes qui continuent à se greffer sur justement ces coutumes africaines dont on n'a pas encore véritablement fait le tour d'une manière totale. Maintenant, les élites nationales qui étaient favorables au christianisme dans les années qui ont suivi la décolonisation ont tendance à s'éloigner aussi des églises, même quand elles restent chrétiennes, finalement, on pourrait dire de nom. Maintenant, il y a un autre problème pour les églises d'Afrique, c'est aussi le fait que les pasteurs locaux qui ont pris en main donc, les commandes de l'église africaine sont souvent des gens simples, qui ont une formation souvent superficielle. Les leaders des églises sont souvent des gens qui ont une formation en Occident, soit en Europe, soit aux États-Unis. Mais les pasteurs de terrain sont souvent des gens qui sont issus soit d'écoles bibliques locales, soit tout simplement des gens qui ont été formés sur le terrain. Et les églises, les écoles bibliques locales sont souvent assez superficielles. De ce fait, beaucoup de ces pasteurs, qui sont souvent des gens très consacrés au demeurant, n'est-ce pas, ne sont pas toujours capables de donner des réponses à, par exemple, des étudiants qui vont dans les villes pour étudier et qui reviennent avec des questions desquelles ils ne font pas toujours tout à fait le tour. Maintenant, il y a un autre problème aussi pour l'Église africaine, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. Beaucoup de ces églises africaines ont voulu abandonner ce qui était légitime. Par exemple, pour l'Église catholique, l'usage du latin. C'est évidemment assez aberrant de penser que les premiers missionnaires catholiques aient imposé le latin à ces populations africaines, mais c'était dans la théologie de l'Église catholique de l'époque, tout simplement, n'est-ce pas ? Bon, le latin devant être l'Église universelle de l'Église. Mais sans aller jusque-là, la musique occidentale, des choses comme cela, au moment de la décolonisation, on a dit, bien, il faut revenir aussi à nos coutumes, etc., nos rythmes, nos mélodies, nos instruments de musique. Cette contextualisation de l'Évangile comporte également un danger. Le danger, c'est que souvent derrière ces mélodies africaines, ces rites, il y a justement tous ces vieux rites païens de l'Afrique et qui font que parfois, par exemple, au Zaïre, enfin l'ex-Zaïre qui est redevenu Congo maintenant, ça change souvent, donc il faut suivre. Il y a une église de type pentecôtiste d'ailleurs, appelée l'église Kimbanguiste, du nom de son fondateur Kimbangi. Cette église est une église assez curieuse. Elle a fini par être acceptée par le Conseil œcuménique des églises après beaucoup d'hésitations, parce que vous savez que bien que le Conseil œcuménique des églises soit très large quant à la tolérance, il y a quand même une base minimum qui est justement le symbole de Nicée. Et on n'était pas très sûr que l'église kimbanguiste soit particulièrement nicéenne. Finalement, elle a réussi à entrer quand même. Mais enfin, ceux qui la connaissent bien savent que finalement, il y a derrière justement les manifestations charismatiques, il y a des cultes des esprits traditionnels de l'Afrique qui se cachent, qui se greffent, n'est-ce pas ? Et l'église kimbanguiste n'est pas le seul du genre. La seule du genre, même parfois des églises catholiques ou des églises historiques, luthériennes ou autres, cachent mal des cultes traditionnels africains, c'est pas qui se cachent derrière ces choses-là. Si bien que finalement, la situation en Afrique, à la fin du siècle ici, n'est pas si brillante que cela, même si l'Afrique reste un des continents qui est un des plus ouverts encore à l'Évangile, sur le plan de l'évangélisation, qui soit aujourd'hui au monde. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas là des problèmes. Si l'évangélisation est relativement facile, encore pour le moment, Ensuite, établir des églises solides, c'est évidemment beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Nonobstant tous les autres problèmes socio-économiques, politiques de ce continent en dérive. Hein. Je crois que là, en dérive, c'est le mot. Et là, bon, tous ceux qui connaissent un peu savent que la situation de l'Afrique est extrêmement préoccupante au début de ce siècle. Bon, on peut s'arrêter là une seconde, si vous voulez, avant de commencer autre chose. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?